Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, 8h44 ce matin. Dans un instant, le petit déjeuner de l'actu. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, vos appels, hein, comme tous les matins, 0826-300-300. En attendant, on revient sur ce qui fait parler ce matin avec la revue de presse et Benjamin Glaize.
Oui, aujourd'hui, c'est l'interview, Benjamin, d'Emmanuel Macron qui fait la une de nombreux journaux. Enfin, l'interview ce soir.
Oui, c'est ça, effectivement, ce soir, qui sera retrouvé d'ailleurs en direct sur Sud Radio. Ouais. En tout cas, ça fait réagir notamment la dépêche du midi ce matin avec ce titre, un Covid, la piste du couvre-feu. De son côté, la Provence préfère poser la question, avec le jeu de mots en prime, en marche vers le couvre-feu, point d'interrogation. Ce soir, Emmanuel Macron doit détailler effectivement sa stratégie face à la deuxième vague et la piste de ce couvre-feu pour les agglomérations les plus touchées tient la corde. En attendant, Marseille a été le laboratoire des premières restrictions et pour la Provence, le bilan, il est plutôt en demi-teinte. Pour le Figaro, Macron est à l'heure des choix avec un chef de l'État qui reprend la main. Il est de retour d'une certaine façon en première ligne, espérant créer, nous dit le Figaro, un électrochoc, un sursaut dans la population. Alors plusieurs options étaient examinées hier, mais selon le Figaro, le président va surtout appeler en tout cas à la responsabilité de chacun dans la sphère privée, tout en cherchant à se montrer rassurant face aux incertitudes économiques.
Oui, des incertitudes économiques, justement, à la une des Échos.
Oui, avec la lourde facture du coronavirus sur les retraites. L'épidémie va en effet creuser durablement le déficit des régimes de retraite. Ouais. Un besoin de financement estimé à plus de 13 milliards d'euros en 2024. Et il sera délicat, selon les Échos, d'entreprendre des mesures de redressement des comptes avant la fin du quinquennat. Du côté de l'épidémie, les Pyrénées-Orientales sur le point de basculer. C'est ce que nous dit l'indépendant catalan. 87 cas de Covid dans une maison de retraite à Perpignan. Le passage de la ville en zone alerte renforcée, voire maximale, semble imminent. On apprend également qu'hier, 3 bars ont fait l'objet d'une fermeture administrative. 13 établissements ont par ailleurs été mis en demeure par le préfet, c'est-à-dire donc ce matin dans l'indépendant.
Oui, et puis on continue notre revue de presse avec Alexandra Schwarzbrot, directrice adjointe de la rédaction de Libération, qui est avec nous. Bonjour Alexandra. Avec la précarité face à un possible reconfinement qui est à la une de Libération.
Oui, c'est ça. C'est l'impossible en même temps, avons-nous titré, parce que comment faire en sorte d'affronter l'épidémie, de la faire baisser, et surtout d'éviter que la précarité n'explose, parce que ce qu'on a vu, ce qu'on a pu constater, c'est une enquête que nous publions, c'est que la précarité a explosé pendant ce premier confinement, et le risque, c'est que s'il y a un nouveau reconfinement total ou même partiel.
Attendez, Alexandra, la liaison n'est pas très bonne, on vous retrouvera peut-être un petit peu plus tard, parce que là c'était un petit peu difficile, la précarité face à un possible reconfinement, du côté de Libération. On continue le petit déjeuner de l'actualité.
Oui, avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel et vos appels 0826-300-300.
Oui, absolument, 0826-300-300 et tout à l'heure à 9h aussi on sera avec Stanislas Gothon pour prendre des nouvelles de ce qui s'est passé dans l'Essonne avec
ce policier
qui a été renversé vers 1h30 du matin. On vous donnera quelques détails. Et puis tout à l'heure aussi, c'est vrai, on parle de la précarité, des difficultés, du stress, etc. Le professeur Philippe sera avec nous tout à l'heure. Il propose dans son livre, c'est un livre anti-fatigue.
C'est l'expert du sommeil.
Ça. En 4 semaines, vous retrouvez 100% de votre énergie grâce au sommeil. Parmi les bonnes idées, il faut dormir. Souvent, on se dit, oui, mais combien de temps j'ai dormi cette nuit, etc. Il faut dormir 7 heures en moyenne. Si vous ne pouvez pas, l'idéal, c'est d'avoir 49 heures par semaine.
Au
sur
compteur,
7 jours.
En une semaine.
Oui, c'est ça. Donc, si vous pouvez passer une journée ou une nuit, vous allez dormir que 4-5 heures, etc., vous pouvez vous rattraper.
Vous compensez le lendemain.
Non, puis il y a de bonnes choses. Et puis, en même temps, Fabrice Midal, parce que c'est vrai qu'on vit dans une période quand même extrêmement stressante, il nous donnera des bons tuyaux, une philosophie de la vie, comment rester serein quand tout s'effondre. Pas évident. Avant le petit déjeuner d'actualité, chose promise, chose due, avec vous, Félix Mathieu. Hier, c'est vrai qu'un auditeur nous a interpellés, et puis a interpellé d'ailleurs aussi les autorités. On donne souvent ce chiffre de 50 000 euros par an pour la prise en charge d'un mineur isolé. Alors, à quoi ça correspond, cette somme? Est-ce que c'est juste? Vous avez mené un petit peu l'enquête, alors, Félix.
Oui, c'est un chiffre qui, en fait, a été avancé par l'Assemblée des départements de France. et qui concerne donc la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés. Ça recoupe en fait le logement, le personnel des structures d'accueil, la nourriture, les frais d'éducation et de formation. Alors, selon cette association qui représente les départements, eh bien, l'aide sociale à l'enfance coûte grosso modo 150 euros par jour et par enfant, jusqu'à 200 euros par jour dans certains foyers d'accueil.
Oui, voilà, si on fait la multiplication, on arrive à ce chiffre.
Voilà, forcément. Ouais. Et ça s'explique eh bien, notamment par le coût en personnel, hein, puisque forcément, dans les foyers d'accueil, il faut du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec du personnel donc à 35 heures, ce qui forcément implique plusieurs équipes pour se relayer. Un prix donc qui correspond finalement au coût total de l'aide sociale à l'enfance et qui est divisé par le nombre de bénéficiaires, français ou étrangers, hein, puisque le dispositif est valable aussi, par exemple, pour les mineurs qui sont retirés à leurs parents et qui sont pour le coup français. Donc là, on parle bien des mineurs étrangers non accompagnés qui sont pris en charge par ce même dispositif, avec donc finalement ces frais de structure, mais ça ne veut pas dire pour autant que chaque mineur concerné engendre à lui tout seul 50 000 euros supplémentaires.
Ouais, mais c'est évidemment une moyenne. Mais alors l'association France Terre d'Asile, hein, estime ce chiffre, c'est elle qui s'occupe de beaucoup de mineurs aussi, de la prise en charge de gens dans la précarité, elle estime que ce chiffre est un peu exagéré.
Oui, grosso modo, le président de France Terre d'Asile estime, lui, l'addition à moitié moins. On l'appelait hier et lui parle d'un prix journalier de l'aide sociale à l'enfance qui irait plutôt de 65 euros à 130 euros par jour, soit donc plutôt ramené à une année 23 000 à 47 000 euros par an et par mineur. Donc, selon lui, ce chiffre de 50 000 euros donné par les départements, eh bien, ce serait vraiment, à l'en croire, la fourchette haute quand même.
Oui, bon, bah, grosso modo, c'est une fourchette très très large, c'est un espace large, c'est de 25 000 à 50 000 euros. Quoi, quand même. Voilà. Mais ça coûte quand même évidemment assez cher. Alors, qui prend en charge ces coûts ?
Eh bien, ce sont essentiellement les départements qui justement reprochent.
Donc, c'est vous et moi, quoi.
Voilà, exactement.
Ce sont les impôts, c'est ce qu'il faut dire.
Voilà, les départements. Oui, mais les départements qui reprochent d'ailleurs justement à l'État de leur laisser cette dépense, puisque l'État est censé compenser dans leur budget, mais finalement, il ne le fait que de manière très marginale.
Oui, merci Félix Mathieu pour cet éclairage. Le petit déjeuner d'actualité, donc avec vous, Arlette Chabot, Yves de Carbrel et
Elisabeth Lévy.
Elisabeth Lévy sont là aussi normalement.
Sur le pont.
J'imagine, sur le pont, bien sûr. Couvre-feu, pas couvre-feu, ce soir, Arlette Chabot, est-ce qu'il y a de nouvelles informations autour de cela ?
Non, c'est juste un électrochoc. C'est-à-dire qu'en 48 heures, on est passé d'un président de la République qui ne devait pas annoncer de mesures concrètes, mais laisser plutôt le service après-vente à son ministre de la Santé et au Premier ministre, ex-monsieur des confinements, à une communication de l'Élysée où on a donc encore une fois électrochoc. Donc ça électrochoque, ça ne peut pas être un président de la République qui vient à la télévision dire en direct aux Français « Attention, attention, soyez raisonnables, sinon je vais prendre des mesures
difficiles. » Emmanuel Macron, il n'aime pas donner de mauvaises nouvelles quand même.
Il n'aime pas donner de mauvaises nouvelles, il n'aime pas non plus annoncer des mesures contraignantes. Hein. Je rappelais qu'effectivement, le confinement, il n'avait jamais prononcé ce mot parce qu'il le trouvait effectivement beaucoup trop violent. Déconfinement, il a dit, mais quand on a appuyé sur le bouton stop et qu'on a éteint toutes les lumières, eh bien le mot confinement, c'est le Premier ministre qui l'a prononcé et pas lui. Donc il n'aime pas les mesures contraignantes, c'est quelqu'un qui est, parce qu'il est libéral, il préfère effectivement en appeler à la responsabilité individuelle. Donc ce soir, est-ce qu'il va forcer sa nature ? Mais sa fonction l'oblige à forcer sa nature, et puis on va voir jusqu'où il ira dans ces mesures contraignantes qu'il doit annoncer.
Elisabeth Lévy.
Oui, moi je suis frappée par autre chose. Alors je sais pas, je sais pas ce qui se passera, mais justement, si vous voulez, par le fait que d'abord tout ça crée une atmosphère excessivement anxiogène hein, pour des gens qui veulent pas angoisser la population, c'est raté. Et je trouve qu'on y participe un peu parce que, écoutez, on nous a annoncé, je crois lundi, hein, je crois qu'on a vu tomber l'urgent dans la matinée, comme quoi le président parlerait mercredi. Et depuis, on ne sait rien. Il y a des rumeurs, il y a des conseillers qui parlent, mais en réalité. On sait très bien que probablement peut-être qu'Emmanuel Macron n'a même pas complètement lui-même pris ses décisions.
Ça arrive d'ailleurs donc, souvent. Non mais ce que vous dites est particulièrement important, c'est vrai.
Et je trouve, si vous voulez, que cette façon de tambouriner qu'on a, toute la presse en fait c'est une ce matin, hein, je sais pas que nous, tout le monde, si vous voulez, sur une information qu'on n'a pas. C'est-à-dire, je trouve que c'est pas bien, finalement, que ça participe de ce climat anxiogène et que, finalement, d'autant plus qu'on commentera demain les décisions effectives.
Oui, oui. Arlette, c'est vrai que parfois les discours...
Je me réserve sur le couvre-feu.
Oui. C'est vrai que souvent les discours des... Alors, ce n'est pas un discours, parce que là, ce sera une interview. Mais enfin, bon, souvent, les prises de décision pour les prises de parole des chefs de l'État ou des premiers ministres sont parfois décidées dans l'heure qui précède. Hein, au dernier
c'est
moment,
vrai,
ça change.
C'est d'autant plus vrai pour Emmanuel Macron. Donc, certains disaient même hier que cette espèce de flambée autour du couvre-feu, c'était un moyen de tester les réactions de l'opinion, de voir les réactions à la fois des élus, des politiques, qui sont franchement pas favorables, hein, droite et gauche confondues, avec la majorité qui soutient cette idée, testée aussi auprès de la presse. Alors, elle a tout à fait raison, Elisabeth, mais en même temps, c'est le jeu. Alors, est-ce que c'est un ballon d'essai ? On verra ce soir, mais on en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un mot, évidemment, la formule utilisée, couvre-feu, c'est la guerre.
Ah bah
ça,
oui, bien sûr.
Forcément, ça
il manque que les Ausweis.
Alors les Ausweis, on a déjà eu.
Qu'on a eu au printemps.
Total. Donc forcément, on en parle. C'est la première fois qu'on utiliserait une telle mesure. Donc forcément, on en parle. Évidemment.
Yves de Kerbrel, votre sentiment, vous ?
Bah écoutez, Le problème, pour moi, c'est pas tant les mesures qui seront annoncées que le fait que à chaque semaine, on nous souffle le chaud et le froid. Plutôt le froid actuellement. Et que tout ça n'est pas bon du tout. Je vois ça un petit peu sous l'angle économique. Tout ça n'est pas bon du tout pour la confiance de manière générale. La confiance de tous les agents économiques, que ce soit la confiance des patrons comme la confiance des consommateurs. On se plaint qu'il y a 85 milliards d'épargne forcée qui n'est pas consommée et que les magasins sont vides. Mais les magasins vont rester vides tant qu'on soufflera le froid de cette manière.
Alors ça dépend, il y a quand même des secteurs où c'est reparti, hein. il y a eu des ventes. Il y a des domaines où ça ne repart pas, puis il y en a d'autres où ça a fonctionné quand même, Yves, parce que
il y a une étude très intéressante qui vient d'être faite par la Banque de France sur les retraits d'argent aux distributeurs carte bleue. Les retraits d'argent aux distributeurs carte bleue ont diminué de 20% depuis le confinement. C'est-à-dire que les Français qui allaient retirer 100 euros, je ne sais pas, par semaine, au distributeur carte bleue, maintenant retirent 80 euros.
Oui. En même temps, vous avez quand même vu qu'on pouvait payer un petit peu plus facilement, quoi, avec la carte bleue aussi, non ? Ça explique peut-être cela, non ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et puis que pendant le... Non, mais c'est vrai, et que pendant le confinement et à la sortie du déconfinement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus payer en espèces parce qu'ils ne veulent pas avoir des pièces, avoir des billets, et qu'avec avec la carte, vous risquez un petit peu moins le virus, entre guillemets. Elisabeth.
Moi je rejoins Yves, hein, moi je fais une étude scientifique très sérieuse dans les magasins où je me force à aller par civisme, et je constate que les marchands de fringues, si vous voulez, se plaignent tous les magasins ne sont... Et qui a envie, d'aller faire des boutiques dans ces conditions, si vous voulez. Et évidemment, si on referme les restos, qu'on les ferme plus tôt, ça va encore accroître la chose. Cela dit, juste pour répondre à quelque chose que disait Arlette, c'est vrai que comme ils ont annoncé, ils ont annoncé à coup de roulement de tambour, que le président parlerait, on se dit qu'il va forcément dire quelque chose. Mais Arlette, corrigez-moi si je me trompe. Il me semble que deux ou trois fois déjà, on nous a fait le coup et qu'à la fin, il a fait ce que vous avez dit qu'il ne ferait pas, c'est-à-dire nous dire « soyez raisonnables ».
Oui, c'est pas faux, mais là, je pense quand même que la situation, vous l'avez dit, hein, le Premier ministre, il s'exprime lundi pour dire, en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faute des Français qui n'ont pas été raisonnables pendant l'été. Donc, si le président de la République intervient deux jours plus tard, c'est sa deuxième intervention à la télévision en une semaine. Hein, il y a huit jours, c'était dans les Alpes-Maritimes après sa visite au village touché par les inondations. À nouveau, il est sur TF1 et France 2 ce soir. Il ne peut pas juste dire à nouveau, encore une fois, jouer les pères fouettards en disant « Soyez raisonnables, les enfants, parce que sinon, je vais frapper. » Donc, ce serait quand même pour nous prendre pour des abrutis complets. Donc, s'il intervient quand même répondant aux questions, c'est sans doute pour quand même annoncer ou annoncer l'hypothèse, en tout cas, de mesures beaucoup plus sévères, mais il faut qu'il les mette dans sa bouche, si j'ose dire. Et on peut aussi compter sur le président de la République pour rééquilibrer avec des mesures en faveur de l'économie, des entreprises, davantage,
c'est
des
vrai.
Mesures prolongées, et aussi des mesures peut-être en faveur des plus pauvres ou des plus jeunes. Ouais. On va voir, il aura de toute
Puis
façon
peut-être
aussi...
peut-être prendre aussi les bonnes décisions avec les administrations, parce que ça c'est quand même complètement dingue. On a eu deux exemples en fait ce matin, frappants. Hein, tout d'abord les tests antigéniques, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle, voire plusieurs mois. Ce n'est toujours pas mis au point parce qu'il faut homologuer, contre-vérifier ensuite pour voir les normes, etc. Est-ce qu'on les met en place ? Les syndicats des voyagistes disent mais c'est complètement dingue, chez nos voisins étrangers ça se fait et ça fonctionne très très bien. Nous, dans les aéroports, c'est pas encore en place. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Catherine Hill, épidémiologiste, qui le disait tout à l'heure, ça ne sert à rien ce que l'on fait là aujourd'hui. Il faut du dépistage massif et puis ensuite on isole là où il faut isoler. Le dépistage, ça fonctionne. On verra qui est touché, qui est concerné. Ensuite, on réussit à isoler en fait derrière et on arrête un peu le virus. Mmh. C'est ce qui s'est passé quand même en Chine. C'est ce qui s'est passé en Corée. C'est ce qui s'est passé en fait en Allemagne. Et nous, on ne le fait pas. Alors, on prend des mesures, on danse sur un pied, sur un autre, etc. et on n'avance pas.
Qui ne sert à rien.
Il y a quand même un problème à ce niveau-là. À mon avis, je ne sais pas s'il l'abordera, ça, cette question, ce soir.
Écrit révolution et avec l'idée pour le président de la République écrivant révolution avant d'être candidat de tout bouleverser. Ouais. S'il venait à la télévision en disant je charge monsieur X ou demande au ministre de la Santé d'arrêter d'avoir 4 niveaux de vérification d'autorisation pour des tests, franchement ce serait bien.
Ouais. Allez, dans un instant on va continuer le petit déjeuner de l'actualité. On a un peu débordé mais c'est l'actualité, c'est comme ça, c'est ainsi. Et on va faire un petit point sur les infos et ensuite...
On va revenir sur l'information du matin, vous savez, sur le policier de la BAC qui a été... percuté par une voiture lors d'un contrôle routier. Restez avec nous, il est 9h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu, toujours avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Yves de Cardrel. Vous appelez 0826-300-300 et revient sur cette information au petit matin, Patrick, lors d'un contrôle routier. Un policier de la BAC a été percuté par une voiture à Savigny-sur-Orge. Son état est très préoccupant. Le chauffeur est en fuite. On en parle ce matin avec Stanislas Godon, qui est délégué général d'Alliance Police.
Oui, bonjour Stanislas Godon.
Bonjour.
Quels sont les dernières informations dont vous disposez, justement?
Écoutez, le collègue a été transporté avec un pronostic vital, donc il se bat pour la vie avec l'équipe médicale. Bien sûr, tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le conducteur du véhicule qui a percuté notre collègue extrêmement violemment, parce que vous imaginez un peu le choc. Oui. Apparemment, c'est un véhicule de grosse capacité. Donc, il faudra bien évidemment, aujourd'hui, il y a des motions dans nos rangs, mais enfin... je dirais, toutes les actions de police, finalement, maintenant, se terminent par des drames. Nous avions des collègues de la PJ qui étaient en surveillance et qui se font massacrer et tirer dessus. Nous avons des collègues qui sont en pause devant un commissariat et qui se font attaquer par 40 individus. Et là, nous avons des collègues qui font un simple contrôle routier sur un véhicule et ça se termine par un drame. Donc, vous voyez un peu, à la veille d'une rencontre avec le président de la République, où évidemment, nous allons porter une revendication. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la réponse pénale, maintenant, soit exemplaire à l'encontre de tous ceux qui attaquent les policiers. Il ne peut plus y avoir de raisonnement sur la surpopulation carcérale. Il ne peut plus y avoir d'explications un peu foireuses sur pourquoi les uns font ceci, pourquoi les autres font cela. Non. Dans la République d'aujourd'hui, on ne peut plus attaquer les policiers, les gendarmes, les pompiers. Et je pourrais même parler des fonctionnaires qui exercent des missions de service public.
C'est ça. Il y a besoin de rétablir de la confiance pour vous, les policiers, pour aller sur le terrain. C'est ça, c'est ce que nous disaient certains la semaine dernière, d'ailleurs à l'issue de ce qui s'était passé à Herblay, que parfois la peur avait changé de camp. Elle n'était pas chez les délinquants ou les gens qui étaient traqués, mais chez les policiers.
La peur n'est pas tout à fait un vocabulaire qu'utilisent nos policiers. Je dirais que c'est surtout que de l'autre côté, ils n'ont plus peur ni des policiers, ni de la justice. C'est en fait en cela que l'équilibre a été bousculé, et plus que bousculé, puisque maintenant, on n'hésite pas à attaquer au mortier des commissariats de police, on n'hésite pas à foncer sur un policier, on n'hésite pas à tirer sur un policier. Donc on voit bien qu'on est dans une violence désinhibée, on est dans une impunité qui s'est instaurée forêt est installée en toute impunité, c'est le cas de le dire, dans la société. Et c'est bien pour ça que aujourd'hui les policiers demandent à ce que le président de la République y signe la fin de la récré et que dorénavant il ne soit plus possible d'attaquer les policiers dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, parce que n'oublions pas que les policiers hors service, ils sont encore policiers et que eux aussi ont payé un lourd tribut ces dernières années.
Oui, oui, c'est ça. Mais quand je disais aussi la peur, c'est que bien souvent, parce qu'il peut y avoir aussi des poursuites, parce que certains ont probablement peut-être aussi exagéré en jouant un peu les cow-boys, certains ne ripostent plus ou ne ripostent pas, quoi.
C'est-à-dire que depuis des mois, on a entendu quoi ? Ouais. Le police bashing, certaines associations, certains partis politiques qui n'ont même pas hésité à dire, et vous vous rendez compte, à quelques jours du drame de Herblay, un parti politique comme la France Insoumise qui dit qu'il faut désarmer la police et que si les policiers n'avaient pas été armés, on leur aurait pas tiré dessus. Vous voyez un peu le raisonnement. Ouais. Alors plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, je crois que pour apaiser notamment la société, pour l'apaiser, il faut des réponses pénales fermes. Parce que c'est la seule garantie que les lois de la République soient respectées et que surtout, ceux qui protègent la République, ils soient respectés et protégés.
Oui, Stanislas Godon, question d'Elisabeth Lévy. Elisabeth.
Oui, bonjour Stanislas Godon, on est désolé pour votre collègue. Évidemment, on est tous d'accord sur la question de la réponse pénale et de l'impunité. Simplement, je me demande si ça traite l'intégralité du problème et même si ça traite l'essentiel. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai relu le livre du docteur Berger qui parle d'une population de jeunes qui est devenue inaccessible à la raison, à l'entendement, au sens commun et disons au conséquences de leurs actes les plus simples, si vous voulez. Alors effectivement, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une espèce de violence gratuite immédiate et que même la perspective de la prison, etc., ne va pas y changer grand-chose. C'est plutôt un problème éducatif, je dirais, à la racine. C'est qu'on a aujourd'hui, d'après les spécialistes, une population qu'on va avoir du mal à récupérer par quelques moyens que ce soit, y compris d'ailleurs la prison ou des sanctions pénales fortes.
Alors, pour répondre à votre question, puisque en fait, vous évoquez la problématique avec les mineurs, bien sûr, et nous le disons, il faudra se poser la question de l'excuse de minorité, parce que aujourd'hui, les mineurs de 16 ans, ils sont capables, ils n'ont d'ailleurs rien à envier aux exactions et aux violences qui sont perpétrées par les adultes, soyons très clairs sur le sujet, et en plein débat parlementaire sur la réforme pénale des mineurs, pour l'instant, nous n'avons pas vu de mesures qui tendent à s'occuper réellement de ces mineurs. D'ailleurs, je rappelle que les établissements fermés, il n'y en a que 52 en France. C'est vous dire si on est quand même loin du compte. Et là aussi, ça pose la question des moyens qui sont donnés à la justice pour apporter une réponse pénale exécutée. Alors après, que ça passe par des mesures éducatives, mais vous savez, quand on fonce sur un policier, qu'on attaque un policier, je suis pas sûr que les mesures éducatives soient réellement la réponse. Nous ne sommes pas pour le tout carcéral, il faut arrêter de nous caricaturer. Mais par contre, pour les actes graves, il faut qu'il y ait des sanctions extrêmement fermes et qu'ils soient exemplaires. Parce que sinon, dans la gradation des sanctions par rapport à la gradation de la gravité des infractions, et c'est bien ça le problème, c'est que depuis des années, on raisonne comment ? On dit, non, il ne faut pas faire de la surpopulation carcérale. Mais est-ce qu'on parle des victimes ? Est-ce qu'on parle réellement des préjudices subis ? Et est-ce qu'on parle des infractions qui sont commises et des peines encourues ? Et c'est bien pour ça que nous avons demandé à ce que soit créé cet observatoire de la réponse pénale pour qu'on fasse de la transparence. Le ministère de l'Intérieur fait de la transparence tous les mois, donc maintenant, au garde des Sceaux, de faire de la transparence sur les peines prononcées, les peines exécutées et réellement exécutées. Qu'on ne nous raconte pas encore qu'il y a 90% de réponses pénales qui sont effectuées, parce que ça, c'est pas vrai.
Oui. Arlette Chabot ?
Oui, Stanislas Godon, est-ce que selon vous, il faut revoir, repréciser, augmenter le droit à la légitime défense pour les policiers ? Le débat est engagé.
Alors, nous avons entendu, mais il faut savoir que la légitime défense a déjà évolué en 2017 par la loi, notamment sécurité publique, avec 5 cas d'usage des armes qui ont été clairs. C'était en fait un alignement totalement justifié par rapport aux gendarmes, vous avez raison de le dire. Et pour prendre par exemple le cas de Champigny, les collègues auraient tout à fait été en droit de faire usage de leur arme puisqu'il y avait 40 individus qui les attaquaient. Mais vous voyez, quand on essaye de nous faire de nous coller une étiquette de cow-boy comme vous le disiez tout à l'heure, on nous colle une étiquette de policiers ultra-violents et qui commettent des violences policières quasiment tous les jours, et ben c'est pas le cas. Il y a plutôt du sang-froid dans les rangs de la police nationale.
Au standard 0826 300 300 des réactions aussi.
Oui,
Claude est avec
bonjour.
Nous. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous vouliez parler de la police, mais alors c'est vrai qu'on a été rattrapé par l'actualité et cette histoire justement assez terrible.
Hein. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai écouté, donc je pense que c'est un policier délégué syndical, je pense, hein, Alliance Police.
Oui,
je suis,
Stanislas voilà. Godon, oui, oui, absolument.
Voilà, hein, monsieur ouais. Stanislas Godon, connu sur Twitter. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui supportait avant la police, hein, je l'encourageais, il n'y avait aucun problème là-dessus. J'ai fait plusieurs manifestations. J'ai vu la police tirer comme dans une foire.
Ouais. Parce que c'était lors une des foire, gilets hein. jaunes, manifestation,
voilà,
rassemblement.
Ouais, manifestation ouais. des gilets jaunes, mais il n'y avait pas eu que les gilets jaunes.
Non, non.
J'ai fait aussi le barrage de Civennes, où ça s'est très très mal passé.
Ouais.
Notre-Dame-des-Landes, où ça s'est fini à travers champs. Enfin, je ne sais pas ce que faisait les forces de l'ordre à surveiller des champs. Voilà, monsieur Stanislas Godon est très politisé. J'entends beaucoup dans sa bouche répression, répression, répression. Je soutiens la police quand elle se fait attaquer par des racailles, hein, parce que j'ai habité au Val d'Argent une époque. Déjà, l'image de la police en prenait un coup. Moi, donc je suis blanc. Je me suis fait arrêter par des jeunes policiers donc de la BAC. C'est le tutoiement, c'est les insultes. Il y a un moment donné, quand on demande de soutenir la police, il n'y a pas quand ils se font attaquer par de la racaille, je dis bien de la racaille, parce que c'est une minorité. Hein, quand j'entends les syndicats de police dire que dans la République française, il y a des zones de non-droit, c'est un mensonge. La police, si elle veut aller...
Claude
Oui.
Oui, non, vous ne vous entendez plus. Quoi. Oui, dites, oui, posez votre... allez-y.
Quand il y a eu des manifestations, les forces de l'ordre étaient là en conséquence. Hein, d'ailleurs, c'est le samedi, on les voit. Hein, ils sont en conséquence. Si c'est passé à Herblay ou à Champigny, c'est pas la première fois. C'est sûr que ça rentre dans les faits divers. L'actualité, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup. J'entends qu'on critique la police, machin. On critique pas la police. C'est factuel ce que je dis. La plupart des gens ne soutiennent plus cette police, qui est devenue même pas une police républicaine. C'est dans ses rangs, s'ils font le ménage, parce que c'est plus un fossé, c'est un canyon.
Ouais.
S'il y a du même fait dans cette police, il n'y a aucun problème. Le fossé va se boucher très rapidement. C'est pas le.
Alors ça, c'est votre réflexion, oui, Claude. Alors Stanislas Godon peut vous répondre, Stanislas Godon, sur ce que disait Claude à l'instant.
Alors, d'abord, il faut quand même dire que si on nous traite ou nous donne plutôt une étiquette politique, j'entends aussi l'étiquette politique dans les propos qui ont été tenus, parce que si vous pensez une seule seconde que les 2 ans de gilets jaunes ont été une partie de plaisir pour les policiers qui, je le rappelle, ont eu 2000 blessés dans leur rang, qui ont été attaqués parfois aux jets incendiaires, parfois aux bouteilles d'acide, aux boules de pétanque et aux lance-pierres, parfois il y a même eu des arcs qui ont été introduits dans les manifestations, effectivement, on est un peu loin du débat démocratique que l'on connaît dans la République française. Ensuite, vous parlez évidemment du ménage dans les rangs. Alors ça, on entend ce discours-là. La police nationale française est la plus sanctionnée au monde et la plus contrôlée. D'ailleurs, 2000 sanctions par an, des procédures judiciaires et des condamnations, parce que dans nos rangs, il n'y a pas d'impunité. Je dirais qu'il y a plus de l'impunité du côté des voyous. Et les voyous, ils sont ceux qui attaquent les commissariats, ceux qui attaquent au cocktail Molotov, ceux qui foncent délibérément sur les policiers, mais ce sont aussi ceux et les activistes qui attaquent nos collègues quand ils sont dans un maintien de l'ordre. Parce que vous savez, on prend l'exemple par exemple du 16 mars, qui est un très bon exemple. Sur les Champs-Élysées, nous avions des centaines d'individus qui n'arrêtaient pas d'attaquer les collègues sur le terrain. Et à quelques centaines de mètres, il y avait une manifestation de 50 000 personnes pour le climat. Et ça s'est très bien passé. Pas un jet, pas d'acide, pas un crachat, pas une insulte. Voilà.
Bon.
Donc c'est une question de philosophie aussi.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y en avait... peut-être certains qui venaient uniquement pour provoquer. Mais ça, c'était autre chose. Hein. Merci en tout cas Stanislas Godon, délégué général d'Alliance Police. Merci à Claude également de nous avoir donné en fait son opinion. Comme Claude, vous pouvez nous appeler 0826-300-300 et réagir sur l'actualité. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Yves de Kerdrel. Merci. On vous retrouve demain pour les éditos, évidemment. Sur sur Sud Radio. Dans un instant.
Eh ben, on va vous détendre. Enfin, en tout cas, on va essayer.
Ah bah, je sais pas.
Et on va vous apprendre à dormir, parce que vous savez que le sommeil, bien sûr, est l'atout pour être heureux dans sa vie. On va vous dire qu'il faut dormir 49 heures par semaine. On vous expliquera comment avec le professeur Pierre Philippe. Ça s'appelle Antifatigue aux éditions Albin Michel. Et puis, plutôt sous le côté philosophique avec Fabrice Midal, comment rester serein quand tout s'effondre. Voilà, c'est notre bonne humeur du Grand Matin Sud Radio de ce mercredi.
Bah, ça fait du bien parce que, évidemment, là en ce moment, ouais, Fabrice Midal, qui est spécialiste des questions justement de violence, viendra nous dire
on apaise.
On apaise.
Voilà. Allez. À tout de suite, 9h18.